Sur le dimanche 19 juillet 2020, préparation, introduction à, aux 6 premiers chapitres d'Ésaïe. Et donc, je voudrais donner un bref récapitulatif de ce qui a été vu au culte ce dimanche, pour pouvoir avoir tous les éléments concernant le prophète Ésaïe. Donc, premier rappel, reprendre un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, faire un petit rappel. Le peuple d'Israël avait contacté avec le Très-Haut une alliance qui était différente de toutes les alliances qui peuvent se rencontrer ou se louer, liées entre peuples, entre nations, entre individus, puisque là il s'agissait de l'alliance entre le Dieu Très-Haut et les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un fait remarquable qui distingue cette alliance, c'est que elle a été opérée non pas après une défaite, la perte d'une guerre ou la perte d'une bataille, mais après une délivrance qu'a opérée l'Éternel envers le peuple des Israélites, à savoir les avoir fait sortir d'Égypte pour les conduire jusqu'à une terre promise. Les sortir d'Égypte qui était un des empires les plus puissants de l'époque. Et donc l'Éternel avait fait ça, elle avait délivré son peuple qui était exploité, qui était maltraité en Égypte, qui était violenté, pour les amener dans un pays où ils seraient chez eux. L'histoire commence avec une bénédiction, un Dieu qui a fait du bien, qui a fait une grâce, qui a fait une faveur à un peuple. Il y a une mission également qui est confiée. Bon, il y a en Deutéronome plusieurs versets qui pourraient convenir, hein. J'ai juste retenu quelques versets que j'ai surlignés dans ma Bible. Verset chapitre Deutéronome chapitre 4 verset 40, je vous en fais la lecture. Observe ces lois, ces commandements, dit Moïse au peuple. Et donc, par la bouche de Moïse, c'est l'Éternel qui parle. Observe ces lois, ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, il y a une alliance de suzeraineté, hein, entre un vassal et un suzerain, mais vraiment, le suzerain n'a vu que le bonheur de son vassal. Il ne s'agit pas de l'exploiter, il ne s'agit pas de tirer des tribus, il ne s'agit pas de tirer quelque chose. Dieu a tout ce qu'il lui faut, il n'a pas besoin de notre travail, de nos efforts, de notre argent. Afin que tu sois heureux dans le pays que je te donne. Donc, bénédiction encore. Chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre toutes les peuples qui sont sur la face de la terre. Chapitre 10, verset 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin que tu marches dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, qu'est-ce qui faisait la bénédiction d'Israël? C'était l'amour et l'obéissance. Cette alliance a comme contrepartie. Le peuple se détournait de l'Éternel, les bénédictions étaient enlevées. Alors, on avait vu la semaine dernière les bénédictions et les malédictions. Donc, on peut, au chapitre 27, il y avait un engagement du peuple qui engageait et ceux qui étaient là et tous les autres Israélites qui allaient venir derrière eux. Et donc, il y a une douzaine de malédictions. Je lirai la première. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image à métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains de l'artisan, qui le place dans un lieu secret. Et donc le peuple a répondu à ce moment-là, amen. Il y a des malédictions qui concernent également le problème de mœurs, des problèmes de social, hein, de pas déplacer les bornes du prochain. Maudit soit celui qui fait égarer l'aveugle sur le chemin. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent, qui se fait acheter. Hein. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Maudit soit celui qui ne se soumet pas à la parole de cette loi et qui ne la met pas en pratique. Et tout le monde, tout le peuple a répondu amen. Et il y a une série de bénédictions que je vous encourage à lire, chapitre 28, versets 1 à 14. Si tu oublies la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te précise aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, rien de moins. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Béni à la ville, béni dans le champ, le fruit des entrailles, dont les enfants, le fruit du sol, les troupeaux sont bénis. Verset 6, béni à ton arrivée, béni à ton départ, dans les déplacements, la protection de Dieu, la victoire sur les ennemis, même s'ils arrivent, il est écrit, s'ils arrivent par un seul chemin, ils repartiront par plusieurs. Dans les greniers, dans les entreprises, dans toutes les activités qui peuvent être faites, un peuple saint, lorsque tu observeras tous les commandements, te comblera de tes biens, verset 11, multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en son temps la pluie, pour bénir le travail de tes mains, tu prêteras beaucoup de nations, tu n'en prendras pas, etc. Et dans les malédictions qu'on pouvait lire en suivant, chapitre 28, donc c'est un petit peu l'inverse, la contrepartie. Si Dieu se détourne et se met à se prosterner, qui abandonne l'Éternel pour aller se prosterner devant des idoles. Alors les Israélites sont rentrés dans la terre promise, qu'est-ce qui fait la bénédiction d'un peuple, qu'est-ce qui fait la bénédiction d'une ville? On pourrait réfléchir un petit peu à ça. Où est-ce que, si je dois fonder une ville, où est-ce que je devais la placer? Si je dois mettre ma maison, où est-ce que je vais la situer, cette maison-là? Et qu'est-ce qui fera sa prospérité? Hein, vous connaissez peut-être le proverbe des architectes. Hein, dans l'immobilier, il y a trois choses qui sont importantes. Premièrement, l'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Troisièmement, l'emplacement. Alors, c'est sûr que pour placer une ville, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la richesse autour, des terres fertiles. Et puis, c'est bien d'avoir de quoi la défendre. C'est bien. Et d'autres ont trouvé que c'était plus intéressant encore d'aller prendre les richesses chez les autres plutôt que d'aller travailler. Voilà ce qui a fait la prospérité de la ville et des pays. Malheureusement, l'histoire nous enseigne que souvent, la prospérité d'une ville s'est faite aux dépens d'autres, d'aller puiser en fait chez les autres pour s'enrichir soi-même. Qu'est-ce qui fait la bénédiction personnelle? Je pense que si on a un chez soi, c'est bien, on sera heureux. Si on a des revenus, qu'on peut travailler et jouir du travail de ses mains, avoir la paix, pouvoir vivre tranquillement, sans conflit. La liberté de ne pas être assujetti, de ne pas être pressé, et ne pas être seul également, avoir une famille, une communauté, avoir un sentiment d'appartenance. Voilà, quand on a tout ça, on peut dire qu'on est béni. Qu'est-ce qu'il en était d'Israël et quelle est devenue son histoire une fois qu'ils sont rentrés en Canaan? C'est ce qu'on va voir maintenant brièvement. Alors, Israël avait reçu, c'est vrai, la loi, il avait reçu également le tabernacle où Dieu résidait. Et donc c'était un temple qui était très simple, qui était portatif, qui était fait de tissu, qui était vraiment très léger, quoique magnifique, mais qui était vraiment, qui n'avait pas, qui était vraiment humble par rapport à toutes les grandes structures qui avaient été construites pour les temples des idoles qui étaient adorées dans les palais à cette époque. Et donc c'est ainsi que va s'introduire le temps des juges. On a une société vraiment horizontale, jouir un peu de son travail, dans son lopin de terre, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voilà un petit peu l'idéal pour cette époque-là. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, une liberté totale, une société vraiment horizontale. C'était Dieu qui était maître, c'était lui qui était le souverain. Et il y avait des structures juridiques qui existaient. Il y avait des chefs de famille, etc. Il y avait quand même une organisation. Mais après, chacun avait son lopin de terre, et chacun le cultivait, et chacun pouvait être assuré de la bénédiction de Dieu sur soi-même, et sur tout son travail. Hélas, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et les Israélites, beaucoup d'entre eux donc, se sont, et dans la majorité, l'ensemble, se sont détournés de l'Éternel, ils ont oublié d'où ils venaient, ils ont oublié l'alliance, et où ils ont été négligents, et Dieu a dû envoyer des ennemis pour les ramener, les rappeler à l'ordre, et des juges qui les délivraient. Donc on voyait un petit peu arriver les malédictions, hein, qui pointaient le bout de leur nez pour rappeler les Israélites à l'ordre, mais les choses ont été en se détériorant au fur et à mesure que cette période des juges s'est déroulée, et le peuple a aspiré à avoir un roi, un vrai roi comme les autres nations. Et donc le roi a été donné par Saül, puis David, Salomon, et là le temple qui était fait d'une toile, d'une tente tout simple, ça a été transformé en un temple en dur, et les villes ont été construites, des villes ont été fortifiées par ces rois, et à la fin du règne de Salomon, globalement, chacun était toujours sous sa vigne et sous son figuier, mais il y avait des problèmes avec le roi Salomon, qui avait été infidèle de façon grave et répétée, et donc son royaume allait être divisé, il y a un schisme, son fils allait perdre la majorité de son royaume, il allait juste avoir deux tribus, Juda et Benjamin, et résider à Jérusalem, et toutes les tribus du nord allaient faire la sécession, elles allaient prendre leur indépendance, allaient avoir un roi qui allait régner sur elles et ne plus être assujetti à Jérusalem, au roi de Jérusalem. Deux royaumes qui se dessinent donc, le royaume du nord, dont vous voyez sur les cartes, le royaume du nord est marqué par l'instabilité, beaucoup de troubles, beaucoup de rois qui sont là, qui ont eu des attentats et toutes sortes de choses, des morts violentes. Un royaume qui a une instabilité, un royaume qui était riche, beaucoup de richesses, beaucoup de prospérité. Hein. C'est pas pour rien que le roi Salomon avait construit trois villes fortifiées dans le nord. C'était un lieu qui était sur un lieu de passage, il y avait des routes royales qui passaient là. Et beaucoup d'idolâtrie également, un peuple idolâtre, un royaume instable et un royaume riche en apparence. Il y avait des belles maisons, des belles constructions. Par exemple, le roi Omri, il était roi que pendant 10 ans, mais il avait construit une ville entière à Samarie, et qui était une ville remarquable, et c'était un roi d'une puissance remarquable, qui a été connu de toutes les autres royaumes qui étaient autour. Hein. Il parle du pays d'Israël, du pays d'Omri. Et alors que la Bible n'y accorde que très peu d'importance, pour la parole de Dieu, c'était un roi qui avait suivi le chemin des rois d'Israël, c'est-à-dire tourner le dos à l'Éternel. Et le royaume du sud, lui, a été plus fidèle. Si vous regardez un petit peu la frise de ce qui s'est passé à ce moment-là, vous apercevrez des règnes un peu plus longs, des rois beaucoup moins de rois. Il n'y a pas eu des problèmes, mais globalement davantage de stabilité et une prospérité au niveau du royaume du sud qui dépendait complètement de la façon dont était considérée la vénération de l'Éternel dans le temple de Jérusalem. C'était vraiment très marquant chaque fois qu'un roi s'attachait à l'Éternel, voulait marcher dans les voies de David, il y avait prospérité du royaume du sud, et chaque fois que le roi en place trouvait non, il préférait suivre l'exemple des nations qui entouraient, à ce moment-là, il y a eu du déclin. Et c'est très très marquant pour le royaume du sud. Le royaume du nord s'est terminé en 722. Hein. Le jugement de Dieu a fini par détruire ce royaume-là. Et le royaume du sud, lui, a duré encore pendant quelques années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Ésaïe? Quels étaient les événements? Le royaume d'Israël, Juda, Canaan, la terre promise, était entre deux gros pôles, deux gros empires, au sud de l'Égypte, au nord la Syrie. Et c'est un petit peu convoité par les deux. Là, l'Égypte considérait que le pays de Canaan, c'était chez elle, et la Syrie, pour atteindre l'Égypte, était obligée de passer par là. Et donc, un de nos rois, pour regarder votre frise, vers 745 avant Jésus-Christ, un roi Tiglath-Pileser veut fonder un empire et s'étendre en Canaan. Et donc, après avoir étendu au nord, ben, il s'étend à l'ouest. Et donc, quand il arrive, ben, tout le monde a peur. Les Assyriens, c'était un peuple qui faisait ses conquêtes par la terreur. Donc, ils étaient très cruels, très durs, ce qui fait que les royaumes qu'ils rencontraient, ben, ils préféraient se soumettre que de les affronter. Et donc, ça a été le cas de tous les royaumes du Moyen-Orient, du Proche-Orient à ce moment-là. Hein. Et donc, Samarie, Damas et la Phénicie ont payé un tribut. Au roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, pour ne pas être avoir à les affronter ses armées. Mais Nahem, le roi de Syrie, donc a dû payer 30 tonnes d'argent. Ça peut paraître quelque chose de considérable, mais en fait, il a taxé de 500 grammes toutes les personnes riches, et donc ça ferait à peu près 60 000 personnes. En état qui avait de l'argent dans son pays à ce moment-là. Qu'est-ce que ça représentait? 50 sigles, 50 pièces d'argent, 500 grammes. Ben, ça a été le prix d'un esclave en Assyrie. Hein. On est en ordre d'idée, c'était le prix d'un esclave en Assyrie à ce moment-là. Et donc, Menahem, le roi qui était à Samarie, dont taxe sa population pour payer le tribut. Ça plaît pas à tout le monde, bien évidemment. Un opposant qui se lève, Pekak, et qui lui a l'objectif de se révolter contre la Syrie, et donc il prend de force le pouvoir. Il fait une alliance avec le roi de Syrie, Rétsi, et il veut entraîner dans l'alliance le roi de Juda, qui s'appelle Ahaz. Mais Ahaz, lui, ne veut pas rentrer là-dedans. Et donc, Pélak et Rétsin, deux rois beaucoup plus puissants que le royaume de Juda, hein, et, veulent envahir le pays de Juda pour les obliger à rentrer dans cette alliance contre le roi d'Assyrie. Et donc là, que fait Ahaz à ce moment-là? Il ne suit pas les conseils du prophète Ésaïe, qui lui disait de ne pas céder. Il se tourne vers le roi d'Assyrie, lui propose, lui envoie de l'argent pour lui demander d'aller mater les deux vassaux qui s'étaient rebellés contre lui. Il n'y avait pas besoin d'argent pour ça. Les Assyriens s'en seraient chargés de toute façon. Mais bon, c'était une mauvaise idée du roi Ahaz. Il n'avait qu'à attendre que le roi assyrien revienne mettre de l'ordre parmi ses vassaux. Mais ce n'est pas le cas, il a envoyé de l'argent. Et donc, bien sûr, le roi d'Assyrie est venu, il a fait la conquête de Damas. Quand il s'est dirigé vers Samarie, les habitants de Samarie ont eu très peur. Donc, ils ont mis à mort Pélak et ils ont mis un autre roi à la place qui s'appelait Osée. C'est Osée qui a assassiné Pélak et qui est venu porter un tribut au roi d'Assyrie, lui demandant de ne pas de se soumettre et donc de ne pas venir détruire la ville de Samarie. Et donc Tiglath-Pileser a annexé toute la province de Syrie jusqu'aux frontières de Juda, et donc on a fait des provinces du royaume d'Assyrie, et donc il a laissé Osée pendant quelques années. Lorsque il y a eu une succession à la tête de l'empire assyrien, Osée a trouvé, c'est le moment de se révolter, poussé également par l'Égypte, qui poussait à cela, et donc Osée n'a plus payé le tribut. Donc les successeurs de Tiglath-Pileser est venu, a fait un siège. Le siège a duré 3 ans, c'était un siège très long. Samarie était une ville vraiment très bien fortifiée, et Samarie a été Samarie a été conquise, le peuple a été déporté. Donc c'est là des échanges de population, et c'est donc ce qui a donné naissance aux Samaritains. Côté Juda, Ézéchias est monté sur le trône de David, c'est un roi qui était intègre, qui voulait suivre les traces de David. Et donc il va d'abord donner un tribut au roi d'Assyrie, et puis ensuite, quand il y a tous ces changements, etc., il a plus payé le tribut, il a voulu son indépendance. Il faut dire que lorsque un roi arrivé, il imposait un tribut, certes, mais il imposait aussi un dieu. Et il imposait le culte de ses propres dieux dans tous les endroits dont il faisait la conquête. Et donc, c'était vraiment un problème, ça aussi, pour les Judéens. Donc, c'était le roi Sanchérib, malgré le tribut versé par Ézéchias, 9 tonnes d'argent. C'était beaucoup moins d'argent que ce qu'avait donné Méhanan en son temps. Le royaume de Juda était beaucoup plus faible, hein, beaucoup moins riche. Et Jérusalem va tout de même être assiégée et connaître une grande délivrance. C'est Dieu lui-même qui va ravager toute l'armée de Sanchérib qui va rentrer chez lui. Et donc voilà un petit peu ce qui se passe pendant les événements d'Ésaïe, pendant qu'Ésaïe prophétisait, beaucoup de bouleversements dans cette région. Donc c'était vraiment un moment qui était riche en tensions et en rebondissements, avec l'arrivée de ce nouvel acteur dans la région, l'Empire d'Assyrie. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant de cette histoire d'Israël, du royaume d'Israël, du royaume de Juda? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette promesse de bénédiction? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc, pour à ce moment-là, c'est devenu une malédiction hein, pour les tribus du Nord. Aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute leur âme, de toute leur force, aimer leurs prochains comme eux-mêmes, ils se sont détournés de cela. Ce qui est frappant, c'est qu'on peut être averti et avancer tout de même dans le mur. La nature humaine est faite comme cela, elle est avertie. Elle sait que si elle fait ça, il va y avoir telle conséquence, mais elle le fait quand même. Hein, on a des exemples tous les jours avec l'éducation de nos enfants. On leur dit, ben non, si tu fais ça, il va t'arriver telle chose, et puis ils le savent, et puis ils le font quand même. C'est pas d'être averti, ce n'est pas suffisant, il faut ajouter l'obéissance à l'avertissement. Et c'est là tout le défi des prophètes qui pouvaient avertir, mais que pouvaient-ils faire pour qu'on les écoute? On peut voir que Dieu est sage également. Jérusalem n'avait jamais été destinée à être une grande capitale. Dieu n'avait pas choisi la ville où il faisait résider son alliance. C'était pas sur une voie de passage. C'était pas un endroit qui était destiné à frapper les regards ou à devenir une grande capitale économique. Non, c'était Jérusalem. David avait fait la conquête. C'était une place forte, certes, mais assez reculé, assez isolé, et le cœur et le centre de Jérusalem, ça va être le temple. Et chaque fois que le culte de l'Éternel était rendu sérieusement, la ville de Jérusalem prospérait. Et chaque fois que le culte de l'Éternel était négligé et qu'on avançait avec des idoles, la ville de Jérusalem et le royaume de Jérusalem déclinaient. C'est vraiment très très caractéristique. La situation de Jérusalem était vraiment très très particulière. La puissance et la richesse peut être un piège. Ça a été un piège pour les tribus du Nord. Israël a voulu imiter les nations, faire comme elles, et elle a eu la même fin que les autres nations. Il en a été du royaume d'Israël du Nord, comme de Damas, comme des Philistins. Tout a été réduit à zéro, et ces royaumes ont disparu. On peut noter également que Dieu est resté fidèle à son alliance. Jérusalem, malgré les écarts du peuple, Dieu a pardonné. Il a été vraiment miséricordieux. Il a vraiment été très patient. Chaque fois, il cherchait à parler et à ramener ce peuple dans ses voies parce qu'il voulait les bénir, parce qu'il voulait leur faire du bien, parce qu'il voulait leur donner ce pays et cette prospérité. Et donc, hélas, au fur et à mesure que le temps est passé, il y a eu un déclin, comme au temps des juges, pour les royaumes, il y a eu un déclin. Et Dieu, lui, est resté fidèle à cette alliance, il est resté fidèle pour les bénir, fidèle pour leur pardonner, mais aussi fidèle pour les châtier. Qu'est-ce que l'histoire du peuple juif, l'histoire d'Israël peut nous apporter, nous enseigner, nous qui sommes l'Église de la Nouvelle Alliance. Essayons de faire un parallèle. Quelles sont nos promesses de bénédiction à nous? Quelles promesses avons-nous de la part de Dieu? Nous avons suivi à peu près le même chemin qu'Israël. Nous avons été délivrés du péché, délivrés de la mort, délivré de la servitude, de tout ce qui est mauvais en nous, et conduit dans le royaume du Fils bien-aimé, Jésus-Christ, fils bien-aimé de Dieu, et donc nous avons des promesses. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Et donc nous avons cette paix, qui est une paix intérieure. C'est une alliance qui est personnelle, c'est une paix qui est intérieure. Vous serez réellement libre. Le Fils de l'homme nous a vraiment affranchis, nous a vraiment mis en liberté. La liberté, surtout la liberté de ne pas aller pécher, hein, de ne pas commettre de mal. Et de ne pas nous laisser orphelins également. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc on a la présence de Dieu en nous, par son Saint-Esprit. Là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. L'assurance de la présence de Dieu lorsque nous sommes en communauté. Dieu est présent au milieu de nos rassemblements. Et donc tout ça sont de grandes promesses de bénédiction, la paix, la liberté. Le fait de ne jamais être seul et le fait d'avoir une famille spirituelle. Quelle est la mission de l'Église? Ben, on la connaît, hein, Matthieu 28, chapitre 18. Hein. Allez, faites de toutes les nations des royaumes, de toutes les nations des disciples, les baptisants et les enseignants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites des disciples. Faire des disciples en les baptisant et en les enseignant dans le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui fait la condition de la bénédiction de l'Église? Donc, on voit que ce sont des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions matérielles, ne sont pas des bénédictions terrestres. Ce n'est pas une mission également de conquête ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement sur le terrain spirituel que ça se joue. Qu'est-ce qui fait la bénédiction de cette Église-là? Qu'est-ce qui va faire sa bénédiction? Ben, c'est l'amour et l'obéissance. Ça n'a pas changé depuis un petit peu sur la même chose que ce qui a été attendu des Israélites. Dieu attend la même chose de nous. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. A dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous devons aimer, nous devons rester dans l'amour et dans l'obéissance à Dieu. C'est la condition de la bénédiction de l'Église. Nous allons prier. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà un petit peu la phrase, le leitmotiv, le refrain qu'on retrouve dans le livre des Juges, Seigneur. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et les rois qui ont succédé, se sont succédés en Israël et en Juda, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Seigneur, nous aussi, nous avons en nous cette nature qui nous pousse à faire ce qui nous semble bon. Et on pourrait traduire ça à faire ce qui nous plaît. Seigneur, que nous ne fassions pas ce qui nous semble bon, mais que nous fassions ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est de t'aimer, de t'obéir et de te servir. C'est de saisir toutes ces promesses que tu nous as données et d'être infiniment reconnaissant pour les délivrances que tu as opérées en nous permettant de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, nous voulons te demander de faire preuve de grâce envers ton Église. Tu as fait preuve de grâce et de miséricorde envers ton peuple depuis le désert, depuis le début jusqu'au temps des rois. Tu as pardonné tant de fois. Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de ta miséricorde et de ta grâce. Nous ne voulons pas plaider notre force, nous voulons plaider ta bonté et ton immense amour pour nous et ta promesse que tu viendrais changer nos cœurs, Seigneur. Merci de nous bénir, merci de nous permettre de faire des progrès en toi, dans le nom de Jésus. Amen.